France Musique.
Merci Lionel, on vous retrouve lundi en direct de l'hôtel Bedford à Paris. Et d'ici là, je vous souhaite un excellent week-end.
This is an electronic instrument that I have.
Tout ce qu'elles ont entraîné dans l'histoire de la musique.
Moi, j'ai besoin de créer.
Tapage nocturne.
Moi, j'ai trahi la musique respectable, concrète.
Bruno Le Thor.
Et le violoncelle de mon enfance. Pour le magnétophone.
France Musique.
Et pour le potentiel.
Gavin Bryars, c'est un véritable trublion dans le monde de la musique contemporaine. Né en 1942 dans le Yorkshire, il fut à l'origine de la drôle d'aventure du Portsmouth Symphonia, un orchestre qui réunissait des non-musiciens et des musiciens jouant d'un instrument qu'ils n'avaient jamais approché pour interpréter des œuvres du grand répertoire comme le Beau Danube Bleu ou Casse-Noisette. Le résultat sonore, comme vous pouvez vous en douter, fut quelque peu aléatoire, mais l'expérience fut marquante et attira des musiciens comme Michael Nyman ou Brian Eno. L'itinéraire tracé par Gavin Bryars depuis cette époque est des plus passionnants. En replongeant l'histoire du naufrage du Titanic, il revisite les partitions jouées par l'orchestre du paquebot au moment de son naufrage, en esquissant un écrin instrumental aux paroles d'un SDF dans Jesus Blood Never Familiate, ou en créant il y a quelques jours un opéra sur des textes de Billy the Kid, Gavin Bryars a inventé un langage, une couleur très personnelle et singulière. Gavin Bryars est l'invité de ce tapage nocturne. Gavin Bryars, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, vous venez de signer la musique du spectacle Billy, avec notamment les percussions au clavier de Lyon. Comment vous avez abordé cette œuvre?
J'ai travaillé avec les percussions au clavier de Lyon pendant des années. En fait, l'ensemble a été créé à l'époque de mon premier opéra Médée, qui était donné à Lyon. Et pour la formation d'orchestre, j'ai supprimé tous les violons et j'ai ajouté 5 instruments de percussion à clavier. C'était devenu les percussions clavier de Lyon, donc c'est 35 ans maintenant. Et après ça, j'ai fait du travail avec eux, j'ai fait une espèce de concerto pour 5 percussions et orchestre, une pièce pour eux-mêmes, seuls, et nous avons enregistré un disque ensemble, et je reste en bon contact et une grande amitié avec le directeur de l'ensemble, Gérard Lecointe. Et l'opéra est dédié à lui, c'est nous et l'opéra, parce qu'il est un grand ami pour des années.
Alors, racontez-nous un peu cet opéra.
D'après un livre de Michael Ondaatje, qui s'appelle The Collected Works of Billy the Kid. Et c'est un livre curieux parce qu'il y a des choses narratives et il y a des poèmes. Ces poèmes comme il s'appelle les poèmes de la main gauche. Il n'emploie pas la main gauche que pour tuer. L'autre main, c'est pour toutes les autres choses. Mais c'est un livre avec beaucoup de poésie, beaucoup de choses très, très touchantes et très humoureuses aussi. C'est assez compliqué, mais Jean Lacornerie a fait un livret de livre avec la collaboration de Michael Ondaatje. Opéra de chambre, qui dure peut-être 75-80 minutes. Et une petite formation de chanteurs et un ensemble de 4 percussions, piano, et violon. On dit qu'il y a 2 musiciens et 4 percussionnistes. Voilà, ça c'est ce qu'on a dit. Et il y a, on fait 11 ou 12 chansons. Ils sont des morceaux comme des pièces musicales qui sont un peu séparées du narratif. Quelques-uns sont des duets, quelques-uns sont des solos. Les deux voix, il y a une soprano, Clarence McFadden, qui est une incroyable chanteuse de la musique nouvelle, aussi de la musique baroque, la musique ancienne. Et Bertrand Belin, qui est un musicien incroyable, un genre très, très intéressant, que je ne connais pas, qui ne connaît pas tout au début, mais nous avons rencontré, je suis venu pour un concert de lui à Paris en juin, il est très, très bien. C'est la première fois que j'ai assisté à une performance de rock à Paris, jamais dans ma vie, mais c'était intéressant. Mais il est très bien, il ne lit pas la musique, donc il faut apprendre tout par cœur. Mais les deux voix ensemble marchent très très bien. Ils sont très bons collègues, les deux. Et la combinaison des deux voix est très très intéressante.
Her shoes are so silent. She comes and sees me. Some shared animal, but only at the days the rest of a food being so loved. Against it. carpenter shaving wood
to find
nuclear postmailing wood beneath my own legs black with scars
and down the road
the parrot
begins to
talk
to itself.
France Musique, Tapage Nocturne, Bruno Le Thor.
Dans ce qu'on a pu entendre de cet opéra, il y a des mélanges esthétiques
oui.
assez complexes. Comment vous avez fait pour gérer ce mariage des esthétiques?
C'est un peu comme, j'ai pensé un peu à le travail de Kurt Weill, par exemple, parce que c'est un peu entre l'opéra et la musique théâtrale, le musical. Donc il y a des choses un peu populaires et des choses qui sont... comme les airs d'opéra, il y a des récitatives, il y a des airs qui sont un peu opératiques, mais pour, les choses pour Bertrand, par exemple, ils sont des chansons un peu comme les Brecht et Weill. Et aussi au centre, il y a une chose qui est un peu inattendue de moi, c'est une pièce très très vite et très fort. Et on dit, qu'est-ce que ça? C'est Bryce qui fait ça? Mais il y a, au centre, il y a une danse. Où Clara McFadden, la femme, elle dit « Pull up the curtain, pull down your pants, Billy the Kid is going to dance. » Et puis, on a une espèce de country music. « Ding, tic, 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 hold down. » Il chante, il danse. Donc, ça, c'est beaucoup différent. Donc, il y a plusieurs choses qui se mêlent, mais il y a une unité avec tout, mais il y a beaucoup de combinaisons de choses.
Vous avez plusieurs opéras dans votre catalogue. Quel rapport vous avez avec ce genre, avec l'opéra?
Au début, j'ai fait un opéra par hasard, parce que c'est avec Bob Wilson qui m'a demandé de faire de travailler sur une pièce de théâtre de Euripides, ça veut dire Médée, devenue opéra. C'est une commande de la La Fenice à Venise, mais ça ne marchait pas, mais on a fait l'opéra éventuellement à Lyon et à Paris. Donc ça, c'est le début de mon carrière en opéra. Et après, en travaillant sur l'opéra, j'ai développé une grande affection, un grand amour pour l'opéra. J'ai bien envie de faire d'autres. Donc j'ai fait 3 opéras qui sont dans des grands théâtres, un à Londres, l'autre à Mainz, en Allemagne. Mais récemment, j'ai travaillé sur des opéras de chambre. Parce que quand on travaille sur un grand opéra, on sait bien qu'il y a peut-être 11, 12 performances, peut-être 15 000 personnes le voient, peut-être il y a une émission de radio, mais on travaille pour deux ans et c'est fini. Mais pour un opéra de chambre, c'est fait pour qu'on peut présenter l'opéra une nuit après une autre. On peut aller à une autre ville, avoir une tournée, c'est beaucoup plus économique et pratique. Il y a peu d'instruments, peu de décors. C'est comme une comparaison entre la musique orchestrale et la musique de chambre. Et pour moi, je préfère la musique de chambre, parce que je suis au début un contrebassiste du jazz, qui est la musique de chambre. J'ai mon ensemble, qui est un ensemble de chambre, 6-8 personnes, des chanteurs. Et c'est une espèce de travail où il n'y a pas de chef, il n'y a pas une hiérarchie. Il y a quelqu'un qui dirige, mais tout le monde écoute tous les autres. C'est une chose très, très sociale et très, très intime. Et j'aime beucoup ça.
We
smaller than a rat. I got the bullets, cleaned him up, sold them to the Texas Star. They weighed them, put them in a pile, took pictures with a camera.
Est-ce que vous vous retrouvez dans le terme minimalisme ?
Je connais le minimalisme et j'ai beaucoup d'amis qui sont vraiment minimalistes. Steve Reich, Terry Riley, Philip Glass, j'ai connu John Adams, beaucoup d'amis. J'ai fait plusieurs pièces qui sont répétitives. Mais en général, je suis classifié avec ces gens. Mais je crois qu'il y a des différences. Par exemple, dans la musique que j'écris, il y a toujours des références hors de la musique, des choses où, sur l'émotion, sur un narratif, sur quelque chose, un paysage ou quoi. Mais les minimalistes comme Steve Reich, comme Philip Glass, sont abstraits. Il y a des, on dit des patterns. C'est une espèce de faire toutes les combinaisons des notes. Mais sur la musique, moi j'écris beaucoup de musique qui a beaucoup de choses hors dehors de la musique. Et à cause de ça, ces références, ça fait un départ du minimalisme vrai, qui est un peu plus dur, un peu plus cool, on peut dire. Et moi, je trouve que j'écris des choses un peu, disons, chaleureuses, un peu émotionnelles. Par exemple, Jesus Blood Never Failed Me Yet, ça c'est une pièce qui est répétitive. Mais si on fait une comparaison entre ça et, disons, Piano Phase de Steve Reich, ils ne sont pas pareils du tout. Mais tous les deux, dans la répétition. J'avais un ami, James Tenney, qui est mort maintenant. Il dit que la seule musique minimalisme, c'est celle de Lamont Young. Les autres sont ce qu'il appelle pulse pattern music. Et c'est différent.
France Musique, Tapage Nocturne, Bruno Le Thor.
Justement, vous venez de citer Jesus Blood Never Failed Me Yet, qui était une œuvre qui vous a fait connaître du grand public. Quel regard vous avez sur cette œuvre aujourd'hui ?
Au passé, c'était un peu comme pour les Rolling Stones de jouer Satisfaction. Il le faut faire partout parce que tout le monde veut l'écouter. Mais maintenant, dans les années, les récentes années, j'ai joué beaucoup de fois dans des différentes situations. Avec orchestre, avec petite formation, et j'ai dirigé des orchestres, j'ai joué avec des ensembles. Je trouve toujours quelque chose de nouveau dans cette petite 26 secondes de musique que cet vieil homme. Ça me touche maintenant, ça continue. Et après presque 50 ans, c'est incroyable que ça reste le même et ça continue à toucher les gens qui l'entendent. Encore une fois, c'est quelque chose qui était arrivé par hasard. J'étais touché par cette voix au début et peu à peu, j'ai rendu compte qu'il faut toujours faire un support pour la voix. Il faut soutenir ce qu'il fait. Il ne faut pas ajouter trop. Il ne faut prendre aucune chose de la voix, de diminuer la voix. Même quand j'ai ajouté la voix de Tom Waits dans le dernier enregistrement, j'étais très prendre grand soin de ne pas supprimer la voix de l'homme, parce que le producteur américain qui travaille sur ça veut que la voix de Tom monte très haut et le vieil homme diminue. Et j'ai dit non, il faut que le vieil homme, c'est pour lui que nous sommes là, c'est pas autre chose. Sans lui, il n'y a rien. Et ça, j'aime beaucoup jouer cette pièce. J'ai fait une version, beaucoup de versions différentes. Il existe une version qui dure moins d'une minute. Il y a un ami, Morgan Fisher, qui a fait un album de miniatures. Chacun doit être moins d'une minute. Donc il y a deux répétitions de la voix et une très vite orchestration qui monte et qui descend. Mais les autres, je vais faire une version l'année prochaine pour le Tate Modern à Londres avec des hommes, des SDF, qui durent 12 heures pendant toute la nuit. Donc on commence vers 7 heures le soir, on finit 7 heures le matin, et tout le monde a un très bon petit déjeuner. Et moi, il faut que je reste réveillé pendant tout, parce que je dirige, peut-être après, je dors après le petit déjeuner.
Vous n'avez jamais retrouvé la voix?
Jamais. Non, parce qu'au début, la bande m'était donnée par hasard. On a jeté la bande parce qu'elle est inutile, elle n'est pas employée dans le film, comme mon ami aimé a fait. Après, quand j'ai débuté le travail, on a pensé à trouver ce genre. Il habitait sur les roues, il avait apparemment, selon les gens qui ont enregistré, il avait peut-être un peu moins de 80 ans, il est très faible, il ne buvait pas. On voit qu'il était alcooliste, mais pas du tout. Il est le seul qu'on a fait à des interviews qui ne buvait pas. Mais il n'y a pas aucune photo de lui, rien. Il reste seulement ces 26 secondes de voix. J'ai une impression de... Je pense, peut-être il est comme ça, je pense à lui toujours avec qu'il avait un sourire quand il chante, parce qu'il y a quelque chose d'heureux, de confiance, d'humanité dans sa voix. Donc mais j'imagine ça, mais on n'a aucune indication qu'il était, mais maintenant il a une vie éternelle avec nous.
vous avez commencé par le jazz, vous l'avez évoqué tout à l'heure. Qu'est-ce qui reste de cette liberté d'improvisation dans votre écriture aujourd'hui ?
Très peu, except quelquefois je travaille avec des musiciens comme ça. J'ai fait du travail avec Charlie Hayden, avec Bill Frisell, avec d'autres personnes dans le jazz. Et aussi récemment, j'ai fait des pièces avec, pour des disques de Father John Misty. Je travaille avec lui et je vais travailler avec lui pendant les concerts en mai. Donc, j'ai prendre un plaisir de travailler dans des choses qui ne sont pas les choses classiques. Mais je trouve que avant, ayant joué du jazz, ça donne une espèce de d'écoute différente pour les musiciens. On est plus libre, on est plus ouvert, on n'a pas peur des erreurs, on peut changer des choses qui n'importe quelle arrive, et on est très attentif à tout le monde avec qui on joue. Mais il y a très peu de choses improvisées dans la musique que j'ai écrite maintenant. Il y a quelquefois des moments du jazz dans la musique. Il y a un quatrième opéra qui est sur les derniers jours de Marilyn Monroe qui s'appelle Marilyn Forever. Il y a un trio sur le plateau qui est un trio de jazz. Il y a contrebasse, piano et sax ténor. Et pour toutes les performances jusqu'à maintenant, j'ai joué la contrebasse. Parce que voilà, je suis payé deux fois. Un fois pour la commission, deux fois pour jouer. Mais il y aura une performance à Vienne en avril et je ne joue pas. Mais il y a du jazz dedans parce que dans cette pièce, si Marilyn Monroe répétait pour une performance ou dans un cabaret ou dans un studio, il y a des gens qui essayent de d'enseigner une chanson. Donc, au centre, il y a une chanson qui est une espèce de chanson du jazz que j'ai écrite. Et le tenor sax, il improvise. Moi, je joue le bass et le piano joue comme le jazz. Et au fin, il y a un petit épilogue où il y a un obligato improvisé par le tenor sax jusqu'au fin de l'opéra. Donc, j'ajoute des choses de temps en temps comme ça. Et quelquefois, j'ai fait des travaux, j'ai fait un album, des songs, des chansons de Tom Waits, dans lequel je joue contrebasse, mais il y a de l'improvisation dedans.
Thank you.
Alors vous avez écrit une drôle de phrase qui était « La composition vous a permis de sortir de la philosophie ».
J'étais étudiant de philosophie, mais en même temps que j'étais étudiant, j'étais un très mauvais étudiant parce que je jouais tous les soirs dans les clubs de jazz. Donc, pour les lectures, le prochain matin, je suis jamais arrivé à l'université avant midi. Donc, j'étais un très mauvais étudiant. Mais la philosophie était importante pour moi, mais pas comme carrière, parce qu'il n'y a pas une carrière pour un philosophe. Sauf que d'enseigner la philosophie, ou peut-être de devenir diplomate, ou quelque chose comme ça, mais je n'ai pas envie de toutes ces choses. Ou devenir un prêtre, ça c'est aussi une autre carrière de philosophie, mais j'ai trouvé que ça, l'étude de philosophie, ça me donne une espèce de pensée d'une façon très claire et avec une espèce de logique qui n'est pas exactement la logique. On peut faire des connexions et tout ça, et ces connexions ne sont pas toujours musicales. Donc la philosophie est importante pour moi, surtout la philosophie des gens comme Wittgenstein et beaucoup de philosophie anglaise du dernier siècle. Thank you.
à l'heure de Steve Reich, de John Adams, de Phil Glass. Il y a un autre compositeur dont vous êtes proche, c'est Arvo Pärt.
Oui.
Est-ce que c'est lui qui vous a fait découvrir ces pays baltes?
Oui, j'ai rencontré Arvo quand j'ai fait mon premier disque pour ECM en 86. Nous sommes devenus amis et oui, je pense que peut-être c'est à cause de lui, parce qu'il y a quelqu'un qui est venu d'Estonie pour m'inviter à un festival en 2003. Et lui, il était ami de Arvo, donc c'est probablement à cause de lui que je travaille dans les pays baltes, qui sont incroyables. J'ai beaucoup de travail là que j'adore ça. C'est, les chanteurs, les chœurs, les gens, la culture, c'est incroyable. Même dans les pays scandinaves, au nord du Baltique.
Alors vous êtes membre éminent du Collège de Pataphysique. Cette culture de l'absurde, est-ce que ça a apporté quelque chose à votre composition?
Oui, sans doute. Maintenant, je suis élevé, transcendent satyre, c'est très haut. Mais je n'ai jamais fait une application pour un poste comme ça. Ça arrive. Je suis devenu membre du collège dans les années 70. J'ai écrit, j'ai posé des questions parce que j'ai travaillé sur Marcel Duchamp. Je veux trouver des réponses à quelques questions qui arrivent. Et peu à peu, je me trouvais dans le collège. Je suis avec Ouli Popo, François Le Lion, Jacques Baudou, tous les gens comme ça. Et c'est une espèce de... C'est comme la philosophie pour moi. C'est une espèce d'avoir une structure dans le cerveau, dans l'esprit, pour qu'on peut voir des connexions qui sont quelquefois absurdes, quelquefois ridicules, quelquefois charmantes, mais qui vous mènent n'importe où. Et il faut poursuivre la ligne de cette enquête. Par exemple, avec une vieux pièce « Sinking of the Titanic ». Ça, c'est avant que je suis dans le collège de pataphysique. Mais comme disent les pataphysiciens, on est toujours pataphysicien, même si on ne sait pas. Même avant, être reconnu. Et pour le cycle de Titanic, il y a une séquence de questions que je pose qui devient de plus en plus absurde, impossible, selon la physique, selon la logique. Mais on les poursuit, éventuellement, on arrive à une création qui ne peut être là sans cette enquête.
Merci beaucoup, en tout cas, Gavin Reyers, d'être venu dans cette émission.
Voilà.
Et à bientôt.
Merci.
Tapage nocturne. Bruno Le Thor. France Musique.
Ainsi s'achève ce tapage nocturne consacré ce soir à Gavin Bryars. À noter que vous pouvez retrouver son opéra Billy demain à Andrézieux-Boutéon, puis au Forum de Mérin à Genève le 27, et enfin le 30 mars au Théâtre de Saint-Quentin en Yvelines. À la technique était ce soir Amandine Grevaux, attachée de production Soisic Noël, réalisation Bruno Rieu-Maillard. Il est temps de retrouver l'émission d'Anne Montaron, Création mondiale.
À réécouter sur francemusique.fr.